want to ask your father about it.
Un mail à ce sujet-là. En tout cas, inscrivez-vous au plus vite. Vraiment, je vous le demande.
On n'a rien reçu. Alors, je voudrais d'aller vers l'adresse de l'étudiant.
Hein ?
Ceux qui n'ont pas reçu, doivent d'aller vers l'adresse de l'étudiant.
Mais je vais vous faire l'adresse. Vous recevez les mails.
Il faut les lire. Bien, je vois toi. On va commencer un peu par le commencement. Il était une fois une princesse. On la connaît très peu. On connaît son frère par son nom essentiellement. Cette princesse a essayé de toutes ses forces d'entrer dans la famille d'Abraham Avinu. Et il est arrivé ce qui n'est jamais arrivé par ailleurs. Abraham Avinu a refusé. Alors elle a essayé, on va faire abstraction des âges successifs, elle a essayé chez Yitzhak Avinu, qui a refusé. Et elle a essayé chez Esav. Et Esav, lui aussi, a refusé. Mais il a un petit peu accepté. Il a accepté qu'elle devienne la concubine de son fils aîné, Eliphaz. Et un jour, les gens ont retrouvé dans leur boîte aux lettres un faire-part. Monsieur et Madame Eliphaz et Timna, c'est comme ça qu'elle s'appelait, ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fils Amalek. Voilà, c'est le commencement. On va parler ce soir des quatre parchiot. Nos maîtres ont instauré qu'avant Pessah, ou plus exactement avant et jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, on lise quatre extraits de la Torah. Ce n'est pas des parchiot entières au sens pas les parchiot tels qu'on les connaît, qu'on les lit Shabbat. C'est un petit morceau. On a commencé ce matin par un premier morceau dans la parasha de Kitissa, au tout début. Ce premier morceau de la Torah concerne les shkalim. Shkalim, c'est le pluriel de shekel. C'est donc une quantité d'argent. C'est un poids d'argent, comme toujours au début. Et il y avait une mitzvah, dont on va reparler, qui consistait à demander à partir de Rosh Chodesh Adar, et pour que ce soit terminé avant Rosh Chodesh Nissan, de demander à chaque chef de famille de donner un demi-shekel, dont on verra pourquoi il aura été utilisé par la suite. Ça, c'est Shkalim. La deuxième paracha s'appelle Zachor et elle s'appuie sur un texte de paracha de Kitetsé dans lequel, tout à la fin, la Moshe Rabbeinu donne l'ordre, d'après Hachem, de se souvenir et de ne pas oublier de détruire toute trace d'Amalek dans le monde. L'Amalek étant, l'Amalek dont on parle est le descendant du fils d'Eliphaz et de Timna. La troisième paracha est un texte de purification. Dans Parshat Roukat, c'est ce qu'on appelle Para Aduma, le texte qui parle du mode de purification de quelqu'un qui a été en contact avec un mort, qui doit donc se purifier, puisque le contact avec un mort impurifie, et on faisait pour ça tout un processus qu'on appelle Para Aduma. Il s'agit de prendre une vache rousse, etc. Et la quatrième lecture, c'est la lecture d'un texte dans Parshat Bo qui nous donne la première mitzvah qui ait été donnée au peuple juif en tant que tel, bien qu'il ne soit en fait même pas encore un peuple à ce moment-là, qui a été donnée en Égypte au Bnei Israël, alors qu'ils étaient encore esclaves de Paro, formellement. Kadosh Baruch Hu leur a dit, « Chodesh azeh lachem, ce mois-là, c'est le mois de Nissan, sera pour vous le premier des mois. » C'est-à-dire qu'il y a un deuxième compte de mois dans l'année. Vous savez qu'on a deux commencements de l'année. Un commencement qui est Rosh Hashanah en automne, et un commencement qui est Nissan au printemps. Voilà, ce sont les quatre parchiotes que nous allons lire jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. J'ai intitulé l'exposé « L'invention d'un peuple » parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. On fabrique un peuple, le peuple juif en fait, avec son opposé qui sert éventuellement de faire valoir, on verra comment il est son opposé, c'est Amalek, qui est l'anti-Israël. Ça nécessite de sortir du problème de la mort, par deux fois. J'y reviens tout de suite. Et ce peuple va vivre dans un monde nouveau, dans un temps à lui. Et c'est ce temps-là qui lui a été donné. On construit donc le peuple au commencement par un acte de don, de chesed. Alors, je vous ai dit qui était Amalek. Je vais encore dire une petite chose sur le fait de sortir de la mort. Le peuple juif, on l'a déjà vu plusieurs fois, est né en réalité deux fois. Il est né une première fois avec Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham a commencé à rejeter les idoles de Nimrod, Nimrod c'était l'architecte, le patron de la tour qui est devenue la tour de Babel. C'était lui le grand chef. À cette époque-là, Abraham Avinu vit à cette époque-là. Abraham Avinu, donc, il veut commencer quelque chose. Dans le Midrash, les choses sont présentées ainsi. Adam Arishon, comme vous le savez, il a reçu 6 mitzvot. La 7e, c'est Noach qu'il a reçu. On ne va pas entrer dans le détail maintenant. Et puis ensuite, ceux qui sont devenus par la suite les Bnei Israël ont reçu d'autres mitzvot jusqu'à ce qu'avec Moshe Rabbeinu, comme dit Rambam, on ait complété le nombre de mitzvot à 613. Quand Abraham s'est révolté contre l'idolâtrie régnante, compris contre son père, comme tout le monde sait, quand il a cassé des idoles. Il a eu affaire au grand patron, c'est-à-dire à Nimrod. Et Nimrod lui a mis le marché en main, il lui a dit « Ou tu te rallies à moi, à l'idolâtrie, ou je te jette dans la fournaise. » Et Avram a choisi de se laisser jeter dans la fournaise. C'est une première épreuve, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, ce que Nimrod a dit à Avram, il lui a dit « Mais c'est complètement ridicule ce que tu penses. Tu me parles de construire un peuple, mais regarde ton thème astral, en quelque sorte. Dans ton thème astral, il y a la fameuse planète rouge qui correspondrait à la mort. Chez les Chaldéens, c'était comme ça. C'était des astrologues émérites, en fait, et il pensait effectivement qu'il comprenait le monde grâce à leur astrologie. Et Nimrod lui a dit, tu choisis de vivre avec moi ou de mourir. Mais ton histoire de construire un peuple, c'est nul, ça n'existe pas. Kadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, c'est juste. Avraham, il s'appelait à ce moment-là Avraham, il n'est devenu que plus tard Avraham. Au départ, il s'appelait Avraham. Avraham n'aura jamais de descendants. Il n'aura jamais de descendants. Il n'y aura jamais de peuple qui puisse descendre de toi. Sauf que tu peux sortir de ce déterminisme astral. Il y a un déterminisme astral. Et tu peux en sortir. Comment on en sort? Eh bien, on en sort en quelque sorte en adhérant à Hachem, en fait. Il faut choisir autre chose. Choisis Hachem. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'Abraham Avinu a fait. Et donc quelque chose a commencé, mais très très lentement, comme vous savez, Abraham il a eu un seul fils qui est allé dans son chemin, et c'est Yitzhak, et Yitzhak a eu un seul fils qui est allé dans son chemin, c'est Yaakov, et la multiplication elle n'a commencé qu'avec les enfants d'Yaakov. On a passé de 1 à 12. C'est encore pas gigantesque, mais au moins, il y a une vraie multiplication. On a fait du surplace pendant 1, puis ensuite seulement 12. Quelque chose qui pourrait s'apparenter à multiple. On est passé de la répétition à, effectivement, une explosion relativement petite, mais enfin, une explosion démographique. Et puis, il y a eu la dispute entre Yehuda et Yosef, en fait, les deux voix dans le clan Israël. Et ces deux voix ont amené, en vérité, à un désastre de ce point de vue-là. D'accord ? Il y a eu quasiment une guerre ouverte entre eux. Et ils ont vendu Yosef en Égypte. Bon, c'est un échec. Ça n'a pas marché. À Abraham Avinu, Hachem avait déjà annoncé que ça ne se passerait pas de façon très, très lisse, très facile. Qu'il y aura obligatoirement, semble-t-il, un exil, un esclavage. Dans Brit Ben Abtarim, Hachem le lui avait déjà dit. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et bien Israël, après Yosef qui a sauvé l'Égypte, mais qui ensuite a fait descendre Yaakov en Égypte, l'exil a commencé, puis l'esclavage. Et donc d'une certaine manière, d'après ce que Rambam décrit, ces gens-là, en Égypte, ils ont pratiquement tout oublié de l'enseignement d'Abraham Avinu. Donc toutes ces grandes valeurs, etc., tout ça, c'était oublié. Il en est resté une petite trace dans la tribu de Lévi. Lévi avait cette tribu-là, elle avait un statut à part. C'est pas clair, on ne sait pas pourquoi, évidemment. À ce moment-là, en tout cas. Et eux ont su quelque chose, ils ont gardé un peu quelque chose. Mais tout était à recommencer, et il a fallu une deuxième création du peuple, en fait, qui est une nouvelle naissance du peuple juif, qui est sa naissance au moment de la sortie d'Égypte. Donc les Bnei Israël sortent d'Égypte, et ils naissent par là même. Mais ils viennent d'un état où Paro, lorsque Moshe s'est présenté devant lui et qu'il lui a dit qu'il voulait que Hachem lui ordonnait de laisser partir son peuple, etc., Paro a dit, il n'y a pas de peuple. Le thème astral du peuple juif, c'est de nouveau la mort. Regarde, Kibera, ils appelaient ça, c'est la planète qui indiquait justement là aussi la mort. C'était toujours à partir d'astrologie, mais enfin c'était ça le mode de connaissance de l'époque. Paro lui a dit, ça ne débouchera sur rien, qu'est-ce que tu vas faire le malheur de ces gens que tu entraînes avec toi. Mais là aussi, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu les moyens de sortir, là aussi, de ce déterminisme astral. Comment est-ce qu'Abraham Avinu est sorti du déterminisme astral? Il a transformé le sang de mort qui était à l'horizon en un sang de vie en faisant la Mila. Dans la Mila, on fait couler du sang, mais c'est considéré comme un sang de vie. Chez Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a fait la même chose. Sur l'ordre d'Hachem, il a aussi fait faire la Mila à tous les Bnei Israël qui ne la faisaient plus à ce moment-là en Égypte. Mais il a ajouté un autre traitement du sang, qui est le traitement du sang du Corban Pessah, de l'agneau pascal, avec ce que tout le monde connaît, le sang qui a servi à badigeonner les poteaux, les linteaux, etc. C'est-à-dire le Corban Pessah. Et ces deux mitzvot de Mila et Corban Pessah sont les deux seuls mitzvot que les Bnei Israël avaient. C'était là le seul mérite que les Bnei Israël avaient et qui pouvait justifier d'une certaine manière qu'ils sortent d'Égypte. Quand Hachem a décidé de les sortir, il a dit, mais ils n'ont aucun mérite. Et c'est de nouveau Hachem qui a donné ce mérite-là. Et il a dit aux Bnei Israël, justement, que alors qu'ils étaient encore esclaves. C'est vrai, quand Hachem a envoyé les 10 plaies en Égypte, les Bnei Israël ont cessé de travailler pour Paro. Mais ils étaient encore formellement esclaves. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu cette mitzvah de Achodesh Azelachem. Voilà, tout commence pour vous avec un mois qui va être le premier de l'année. Vous allez compter le temps à partir de là. Vous avez un nouveau temps, un autre temps que le temps qu'il y avait avant. Ça n'a pas aboli complètement l'autre temps, mais vous aurez, sur certains plans, un nouveau temps. C'est-à-dire qu'on sait que l'année, pour nous, de ce point de vue-là, c'est une année qui va de Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors que l'année du temps d'avant, elle va de Sukkot, Pessah, Shavuot. Parce que Sukkot, c'est la première des trois fêtes qu'on rencontre après Rosh Hashanah. Donc, les Bnei Israël ont reçu cette mitzvah. Ce qui caractérise un esclave, c'est qu'il n'est pas maître de son temps. C'est pas tellement qu'il travaille. Tout le monde, il y a plein de gens qui travaillent. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça pose des problèmes. Si on dit que quelqu'un qui ne maîtrise pas son temps est esclave, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Mais bon, ça c'est une parenthèse sur laquelle il faut peut-être réfléchir quand même, mais on va pas faire ça ce soir. Donc les Bnei Israël reçoivent un nouveau temps, un temps qui sera spécifique aux Bnei Israël, un temps qui va être vraiment le temps qui les caractérise. Ça c'est pour dire deux mots de la nécessité de sortir de la mort. Il faut préciser peut-être que quand Akadosh Baruch Hu a envoyé la dixième plaie, la plaie de la mort des premiers-nés, et que Paro a voulu chasser les Bnei Israël n'en pouvaient plus. Ils savaient que tant que les Bnei Israël n'étaient pas sortis, les morts continueraient, les premiers-nés continueraient à mourir. Donc il a appelé Moshe et il lui a dit « Sortez, partez !» Moshe lui a dit « Non, on ne s'en va pas comme ça. D'abord, on ne partira pas comme des voleurs en pleine nuit. Et deuxièmement, on ne partira pas avant que tu n'aies déclaré clairement que tu libérais les Bnei Israël de tout esclavage. Moi, Paro, empereur d'Égypte, je libère tous les Bnei Israël de leur statut, de l'esclavage. Ils sont libres. Tant que tu n'auras pas dit ça, on ne s'en va pas. » Alors, Paro a essayé de faire de la résistance, mais bon, finalement, il a craqué, et donc, on est sorti comme ça. C'était ça, la sortie d'Égypte. Donc, pour ça, Achodesh Azelachem. Mais on a un problème, du coup, c'est que, si vous voulez, si on regarde ces quatre parchiotes, ces quatre textes, et qu'on les met dans l'ordre chronologique, qui est aussi l'ordre dans lequel ils sont racontés dans la Torah, alors il vient d'abord à Chodesh Azelachem, c'est ce qui est dit dans la parasha de Bo. Et après seulement, au moment de la construction du tabernacle, le shkalim qui vont servir à toutes sortes de choses qui ont à voir avec l'argent, en particulier à construire les socles sur lesquels le mishkan, le tabernacle, va être construit. Donc il viendrait d'abord à Chodesh Azelachem, qui est ensuite shkalim. Ensuite, Paradouma, parce qu'il fallait purifier les gens qui allaient construire le Mishkan. Et seulement tout à la fin, Zachor, souviens-toi d'Amalek, parce que de toute manière, Amalek a attaqué très tard. Alors peut-être qu'effectivement, on pourrait insérer Amalek un peu avant, mais de toute manière, c'est intéressant, ça ne correspond pas à l'ordre des parchiotes que nous allons lire, et surtout, puisque Achodesh Azelachem est la première, alors les autres qui viennent après, en réalité, telles qu'on va les présenter ici, elles sont présentées avant Achodesh. Donc on est en dessous de zéro en quelque sorte. On est avant le zéro, Achodesh Hazé, c'est le zéro, et les trois parchiotes qui s'y précèdent, elles sont avant le zéro. Elles sont dans un temps où, avant la naissance du temps d'Ebné Israël. Comme si c'était des préalables à la naissance. Et du coup, on est tenté, évidemment, de se dire que, alors, ces trois parchiotes-là, elles ont a priori un rapport avec qui? Avec qu'est-ce qu'il y avait avant Chodesh Azelachem? C'est les Avot. C'est les trois patriarches. Donc on a ces trois parchiotes qu'il faut mettre en rapport avec les trois patriarches. Alors, sur le problème du chesed, sur le problème du don, d'accord? Parce que la première des parchiotes que nous lisons, c'est celle qu'on a lue ce matin, d'un don initial. À part le fait que ça nous oblige à reconnaître que nous ne sommes qu'un demi, c'est-à-dire que on a toujours besoin d'un autre, en fait. On ne peut pas être tout seul, on est obligé d'avoir un autre pour former un shekel, puisqu'on donne un demi-shekel. On demande un demi-shekel, et quand on va peser pour savoir combien avait de Bnei Israël, puisque quand ils vont donner ce shekel, on va compter les gens, on va peser en shkalim. D'accord? Donc on ne va pas obtenir le nombre de gens directement. On va trouver le nombre de shkalim, il faudra multiplier par deux pour avoir le nombre de personnes, puisque chacun a donné un demi-shekel. Donc ça aussi, c'est aussi intentionnel. On ne voulait pas avoir un processus qui donne le... On ne voulait pas compter les gens. On verra pourquoi il faut. On n'aime pas compter les gens. Donc comme ça, c'était un moyen de savoir combien il y en avait sans les compter. Alors il faut mettre Avraham en rapport avec le shekel, ça c'est pas très difficile, avec le don, Avraham Avinu c'est le chesed, là on n'a pas beaucoup de difficultés à faire le travail. En plus, Avraham Avinu lui-même, il a payé des shkalim à Ephron quand il a acheté le kever, la tombe de Sarah. Ensuite, si on veut mettre en rapport, Zachor, c'est le din. D'accord, le din, c'est Yitzhak Avinu. On reviendra peut-être un peu par la suite sur, effectivement, en quoi est-ce que Zachor est en rapport vraiment avec Yitzhak Avinu. Je peux juste dire pour l'instant, c'est que Zachor, c'est en rapport avec Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de qui? C'est le fils de Eliphaz, le petit-fils d'Esav, et Esav, c'est le fils de Yitzhak. Et donc, le lien entre Yitzhak et Esav, toujours un lien un peu problématique, pourquoi Yitzhak aimait-il Esav? Justement parce que Yitzhak, c'est l'ami d'Atadine, et qu'Esav aussi, c'est l'ami d'Atadine, dans le mauvais sens. Et Eliphaz, c'est la pointe avancée de... Eliphaz, c'est la pointe avancée... Donc, Amalek... C'est la pointe avancée de Esav. Donc ça, c'est le din. La qualité des hommes pour construire, c'est para, c'est tiferet dans les sphirot, c'est la tahara, c'est la pureté, c'est Yaakov. Mais ça, c'est toujours en dessous de zéro, si vous voulez, avant la naissance du temps. C'est dans une préhistoire, après tout ce que vous voulez. Ça, ce serait une condition nécessaire. Et ce que nous faisons, nous, quand nous lisons, c'est que nous utilisons les parchiot, mais nous les lisons, nous sommes après. On est dans ce temps que Hachem nous a donné. Et donc, on lit, d'une certaine manière, on pourrait dire que les trois premières parchiot, elles concernent l'année dernière, par rapport à Chodesh Hazelachem. C'est Chodesh Hazelachem, Nissan, c'est le début de l'année. Bon, tout ce qu'on va lire concerne des parchiotes qui sont avant, donc qui sont l'année dernière, correspond au travail antérieur à la sortie d'Égypte, antérieur à la libération des Bnei Israël, on peut dire antérieur à l'invention du peuple juif, en fait. C'est-à-dire, c'est en cela que les Avot étaient des précurseurs, ils ont fait tout un travail, mais que d'une certaine manière, si vous voulez, c'est un peu paradoxal de voir les Avot comme étant justement des Avot, des patriarches, dans la mesure où leur vécu de la Torah n'est pas du tout le même que le nôtre. Nous n'avons pas du tout à inventer la Torah. La Torah, elle nous a été donnée, on a à la respecter, on a un problème d'obéissance éventuellement. On n'a pas de problème d'invention de ce point de vue-là. Eux, ils avaient la Torah qui leur était donnée, ils la sécrétaient quasiment d'eux-mêmes. Alors, c'était pas tellement étonnant, dans la mesure où, justement, la Torah est le plan du monde, donc c'est le plan de chacun d'entre nous, et donc, au fond de nous-mêmes, nous avons ce plan. Si vous voulez, la Torah n'est pas quelque chose, c'est pas une loi qui viendrait, même si elle était parfaitement adéquate, de coller au peuple juif. D'accord ? Le peuple juif est construit sur la Torah. Bon, c'est notre source, c'est la trame, si on peut parler comme ça, ou si on prend la conception d'un enfant, c'est quasiment le tout début de la trace de quelque chose de qui allait donner, je sais pas, un truc au niveau des nerfs, je ne vois pas, même pas par où ça commence, c'est un tout début. ils sont à un niveau presque pas perceptible, si vous voulez. C'est complètement différent de ce que nous, nous avons. Et néanmoins, étant donné que ce qu'ils ont trouvé, c'est vraiment la Torah, eux, ils l'ont trouvé par eux-mêmes, parce que quelque part, c'est comme si c'était monté du profond, du fond d'eux-mêmes, et nous, on n'a pas été capable de faire ce travail-là. Donc chez nous, la Torah, elle nous a été donnée de l'extérieur. Et donc, en réalité, il y a une espèce de façon idéale, il y a une espèce de phénomène de résonance entre la Torah qu'on a au fond de nous-mêmes, même quand on n'est pas conscient, et la Torah qu'on nous enseigne de l'extérieur. Donc c'est ça l'effet de la Torah sur nous, puisque comme vous savez, la résonance, c'est probablement, ma connaissance, c'est la seule chose qui donne un effet infini avec à partir du fini, quoi. En théorie, en tout cas. Je reprends les shkalim. La première, dans la paracha qu'on a lue, il y a trois trumot, c'est-à-dire trois prélèvements. C'est-à-dire on demande au Bnei Israël par trois fois de donner quelque chose. Deux fois, on leur demande de donner quelque chose de précis, et une fois, c'est libre. L'usage de cet argent qu'ils vont donner, comme je vous l'ai dit, il s'agit de construire le peuple. Et l'usage qu'on va en faire, qui va être fait, pardon, de cet argent qu'ils donnent, on va parler, un des trois, c'est le Martit HaShekel qui va servir au Adanim, qui va servir au socle du Mishkan. Donc déjà dans l'idée, c'est ce qu'on va donner, c'est le socle du Mishkan. Si le Mishkan, c'est le monde en petit, d'accord, quelque part, c'est le fondement du monde, de ce fameux monde en petit, dans lequel les Bnei Israël vont agir et essayer de, si on peut dire comme ça, gouverner le monde, de cette manière-là. Comment est-ce que cet argent-là va devenir l'argent avec lequel on va fabriquer ces socles et aussi l'argent avec lequel on va acheter ce qu'on appelle les corbanotes du tzibour. Donc il y a le problème, c'est inventer un peuple, c'est aussi inventer la notion de tzibour. Je vais expliquer les choses de la manière suivante. Si tout le clan d'Israël donnait un demi-shekel, tout le monde, chacun vient avec son demi-shekel, on met dans une boîte, et qu'on achète avec cet argent-là, on achète un corban, disons. On achète un agneau, et qu'on amène au nom avec cet argent, on amène cet agneau-là. Ça ne sera pas un corban sibour. Ça s'appellera un corban de shutafim, un corban d'associés. Nous serions là, tous associés, dans l'achat de cet agneau-là. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Le clan d'Israël n'est pas un club d'associés. On veut passer à une autre dimension. D'une certaine manière, cet argent, il allait dans une caisse spéciale qui avait pour fonction de faire en quelque sorte oublier qui a donné quoi. L'argent était là, mais comme s'il n'avait jamais eu de propriétaire. Il fallait enlever la notion de propriété pour que cet argent-là soit là et il appartienne à cette collectivité, à la collectivité. C'est seulement avec un argent comme celui-là qu'on peut acheter le korban tzibour, c'est-à-dire en fait, le korban tzibour, c'est les korbanot qu'on amenait par exemple tous les jours, le matin et en fin d'après-midi, à l'ouverture et à la fermeture des portes du Beit HaMikdash. On amenait un korban qui s'appelle korban tamid. Et ce korban-là, il venait au nom de tout Israël, bien sûr. Et tous les korbanot qu'on amenait au nom de tout Israël, Shabbat, Yom Tov, etc., c'était toujours prélevé de cette caisse-là. Pour que ce soit quelque chose qui appartienne à cette entité un peu abstraite. En réalité, le clan Israël, c'est une entité assez abstraite. Si vous voulez, il n'y a pas un clan Israël d'aujourd'hui, un clan Israël d'Abraham Avinu, un clan Israël de Moshe Rabbeinu ou de Rabbi Akiva. Il y a un seul clan Israël qui est intemporel. Seulement, c'est habité par des générations successives, d'accord, qui habitent cette notion-là qui s'appelle Klal Israël. C'est quelque chose d'abstrait, en fait. Bon, évidemment, les kabbalistes vont expliquer ça d'une autre manière, enfin, en disant que ça vient de très très haut, etc. Mais bon, pour nous, on va dire simplement, c'est une notion très abstraite qui est habitée concrètement par les générations successives. Et donc, pour cette notion très abstraite de Klal Israël, elle a, il fallait qu'elle puisse agir. Et donc, pour qu'elle agisse, il fallait que les gens donnent en oubliant, en quelque sorte, que c'est eux qui ont donné. Il fallait que quelqu'un en donne et on oublie que c'était pas très difficile parce qu'ils ont tous donné la même chose. C'est pas que un qui dit pourquoi on oublie moi. On oublie tout le monde et tout le monde donnait la même chose. C'est pas un problème ici. Le riche et le pauvre étaient à la même enseigne. Ça, c'était les shkalim. C'est un don initial dans lequel on comprend qu'on n'est qu'un demi. On donne, c'est donné pour ce Klal Israël. Si vous vous souvenez de ce qu'on a lu ce matin, hein, ça a déjà une dimension de kapara. C'est étrange, quel kapara. On commence seulement et déjà il y a kapara. Kapara, ça veut dire qu'on doit laver une faute. Alors, dans les Sfarim, on dit que ce shkalim venait pour réparer la faute du Hegel d'abord, et la faute de la vente de Yosef, de Kirat Yosef. Donc, Kirat Yosef qui est avant, en quelque sorte, et le Hegel qui est après la naissance de ce peuple. On est comptable d'une faute qu'on a commise avant. C'est un peu étrange, on pourrait dire, voilà, on oublie tout, quoi. Mais non, cette chose-là est restée. Et parce qu'elle est décisive. C'est vrai qu'il y a eu, c'est un scandale ce que les frères ont fait à Yosef, si vous voulez. Il n'empêche que ça a été utilisé, c'est ça qui nous a amené en Égypte, c'est ça qui nous a permis de sortir d'Égypte. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il ne fallait pas considérer la sortie d'Égypte comme la réparation de quelque chose de mauvais, justement. Il fallait considérer que la sortie d'Égypte, elle commence avec la vente de Yosef. C'est un processus qui a été annoncé à Abraham Avinu, et la sortie commence par la descente en Égypte. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que Yosef est le seul, vous vous souvenez, c'est le seul personnage dont on puisse dire qu'il a sorti, il a participé à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le Hegel, qui est l'emblème de Yosef, d'un tribut de Yosef, c'est pour ça qu'ils ont pu dire à ce machin là, ce Hegel, ils ont pu lui dire c'est toi qui nous as sorti d'Égypte. Il savait bien que c'était pas. Mais c'est représenter Yosef. Yosef est le seul dont on puisse dire une chose pareille. À part Moshe Rabbeinu, bien sûr. Ça, ce sont les shkalim. Une mitzvah donc qui a été donnée, qui est un fondement, c'est le fondement du monde, fondement de, avec évidemment la notion de chesed, la notion de générosité, en fait. Et encore un petit point, c'est que ce que je vous ai dit en passant, c'est que il y a le problème du décompte des Bnei Israël. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas compter? On va dire simplement, encore un autre sujet, mais je veux dire seulement comme ça. Vous ne pouvez pas additionner des poires et des pommes. On ne peut pas additionner. Le seul moyen de les additionner, c'est d'oublier que ce sont des poires et des pommes et de les voir comme des fruits. En tant que fruits, vous pouvez additionner deux poires et deux pommes si vous oubliez que ce sont des poires et des pommes. Vous les voyez comme des fruits. Donc quand on compte les gens, on les compte, il y a une certaine façon de compter, qui fait qu'on oublie complètement qui ils sont. Sinon, on ne pourrait pas les compter. Comment je peux additionner Paul et Jacques? Pas plus que je peux additionner Yankov et Yitzhok. C'est pas... On ne peut pas additionner, ça n'a pas de sens. D'accord. On ne peut pas additionner les gens. Quand on les additionne, c'est pour aller... C'est là, en tant que chair à canon, ou bien... bref. Quand on oublie complètement ce qu'ils sont. Et donc, quand on... Des fois, on doit compter les Bnei Israël. Donc, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on on leur enlève toute leur personnalité. Alors qu'en réalité... Dans le clan d'Israël, chacun joue un rôle fondamental. Chacun entre dans le clan d'Israël avec son nom, avec sa tribu, avec le rôle qui est le sien. Et donc, quand on fait une opération dans laquelle on oublie tout ça, c'est très dangereux. C'est comme si on avait quasiment tué les gens. C'est la raison pour laquelle on compte pas. Et c'est la raison pour laquelle, dans les Shkalim, on s'est arrangé, comme je vous ai dit, pour ne pas compter directement les gens. Vous savez bien, quand on... Il y a un minyan, au lieu de compter les gens, on prend un pasouk dont on sait qu'il a 10 mots, et on attribue à chacun un mot de ce pasouk. La deuxième paracha, c'est cette fameuse paracha de Zachor. Il faut savoir, je vous ai dit l'histoire de la princesse, cette Timna. Elle a donc donné naissance au pire ennemi du clan d'Israël. Le problème qu'on a, c'est que quand on pense à Timna, on ne sait pas pourquoi Avraham, Yitzhak, Yaakov, Esav, Eliphaz même l'ont refusé. Vous avez là une bonne femme qui veut à tout prix entrer dans le clan d'Israël. On en connaît d'autres. Tamar a voulu entrer. Madame Potiphar a voulu entrer aussi. Là-bas, on sait exactement les tenants et les aboutissants. Chez elle, on sait rien du tout. Et on ne sait pas. Il n'y a aucun texte qui explique d'aucune manière, donc, le refus d'Avraham Yitzhak, etc. Mais ça va refuser. C'est un sans pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, on lit dans la Shira que tous les peuples ont été pétrifiés. Parce que ces gens-là qui sortaient d'Égypte, d'où personne n'était jamais sorti, Hachem avait fait des miracles pour eux, tout ce que vous voulez, après Kriyat Yam Souf, etc. Les gens étaient pétrifiés, ils n'osaient pas bouger. Et il y a un peuple, qui s'appelle Amalek, c'est devenu un peuple entre-temps, Amalek a attaqué les Bnei Israël. Et dans le Midrash, on explique qu'il a attaqué les Bnei Israël, il savait qu'il allait perdre. Le Machal comprend, c'est quelqu'un qui... Il y a une baignoire qui est remplie d'eau bouillante. Personne n'ose entrer dans cette baignoire. Il y a un fou qui entre dans la baignoire. Il se brûle, mais il refroidit la baignoire. C'est un principe de thermodynamique. Il refroidit bien la baignoire. C'est ce qu'Amalek a fait. C'est-à-dire qu'il a montré qu'Israël n'était pas inattaquable. Il a perdu la guerre. Mais il a montré qu'Israël n'était pas inattaquable. Pourquoi il a attaqué, on ne sait pas. Il n'y avait rien à gagner, Israël n'avait pas de territoire. Il n'y avait rien à gagner. Il a attaqué. On a presque l'impression que Amalek a fait la même chose, mais dans l'autre sens, que ce qu'on a fait à sa mère. On a refusé sa mère, sans dire pourquoi. Alors lui, il a attaqué Israël, sans dire pourquoi. Il attaque, pour le principe d'attaquer, par principe. On a l'impression que Timna a été refusé par principe. Alors, je crois que si personne n'explique dans Chazal le pourquoi du refus qu'on opposait à Timna, c'est parce qu'il n'y a pas d'explication. Il fallait qu'il y ait un élément négatif, un espèce de pôle négatif, en fait. Amalek, par la suite, va se nourrir de la négativité d'Israël. C'est pour ça que Amalek accompagne les Bnei Israël jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de la négativité dans le clan Israël, alors Amalek vit. Il vit de cela. Amalek, c'est celui qui il représente la négativité d'Israël. Tout ce que nous ne faisons pas encore bien donne de l'énergie à Amalek. Si vous voulez, il y a une chose intéressante. Dans les soirées, m'ont dit que d'une certaine manière, la tribu de Lévi était en quelque sorte l'essentiel du clan Israël, puisque ce sont eux qui font la jonction entre les patriarches et le nouveau peuple, en fait, puisque c'est les seuls qui étaient dépositaires encore de quelque chose. Si on regarde les quatre personnes par lesquelles a circulé justement ce qui a donné finalement Moshe Rabbeinu. Donc Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Si on prend les premières lettres de ces quatre mots-là, ça donne Amalek. Et si on prend les quatre dernières lettres, enfin les dernières lettres de ces quatre mots, ça donne Mita, ça donne la mort. Bon, c'est en soi assez impressionnant. Amalek, en quelque sorte, il attaque un clan d'Israël qui n'est pas encore autonome, qui est d'une certaine manière comme une espèce de fœtus, pas vraiment sorti de la mort. Pour sortir de la trace de la mort, il faudra la para aduma. Il faudra cette fameuse vache rousse, la première étant, comme je vous ai dit, pour pouvoir fabriquer le Mishkan, il fallait que les gens se libèrent de l'impureté consécutive au contact avec un mort. Et donc on a fait, Moshe Rabbeinu a fait ici la première la première para aduma. Les Bnei Israël ont fait donc une guerre contre Amalek. Amalek a attaqué. Ils se sont fait une guerre. C'est une guerre qui est complètement différente de toutes les guerres que les Bnei Israël ont fait par ailleurs. Amalek, donc, nous attaque quand on n'existe pas vraiment, si on peut parler comme ça. Ce qui est très frappant, moi je vous l'ai peut-être déjà dit une fois, c'est que comme vous vous souvenez, c'est Yoshua qui a choisi les meilleurs, il a choisi des gens sans reproche, etc., pour aller faire cette guerre. Et c'est Yoshua qui était là où la guerre avait lieu, comme on faisait la guerre à ce moment-là. Et Moshe Rabbeinu était sur la colline à côté. Et quand Moshe Rabbeinu levait les bras, les Bnei Israël gagnaient. Et quand Moshe Rabbeinu était fatigué, c'est un homme, Moshe Rabbeinu, qui baissait les bras, les Bnei Israël perdaient. Bon, alors on a trouvé un truc, on a mis Aaron et Hur ont pris des pierres, ils se sont mis de part et d'autre de Moshe Rabbeinu, ils l'ont tenu les mains, soutenu les mains en permanence. Ce qui est quand même beaucoup plus gênant, c'est qu'il n'y ait aucune rémanence. C'est-à-dire que les Bnei Israël, quand Moshe Rabbeinu a les mains vers le ciel, donc il indique le ciel, les Bnei Israël pensent au Bnei, ils se reconnaissent que voilà, Hachem, tout ce qu'il a fait pour nous, et ils gagnent. C'est-à-dire ils ont Emouna, ils expriment une certaine forme de confiance en Hachem. Donc ils gagnent. Mais comment se fait-il que dès qu'ils baissent les bras, ils perdent? Il reste rien de ce qu'ils viennent de comprendre? Comment d'une seconde à l'autre, ils ont déjà tout perdu? Il n'y a aucune rémanence, il n'y a pas de reste du tout. Normalement, ils devraient, au moins 5 minutes après, disons, ils devraient continuer de gagner, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu ait le temps de relever les bras. Non, pas du tout. Ils baissent les bras, ils perdent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune rémanence. Mais la vie, c'est la rémanence, c'est la durée, la vie. S'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de vie. Quand on dit David Amelech, Chai Vekayam, qu'est-ce qu'on dit là? Et Chai, il est vivant, Vekayam, et il dure. Parce qu'on peut être vivant, mais vivant un instant, et ça ne dure pas. Donc le problème de la vie, c'est justement quand ça dure. Et ça ne durait pas, justement. Comme si, en fait, ils étaient encore morts, les Bnei Israël. Ils n'étaient pas vraiment entrés dans la vie. Quand, quelque part, quand on les soutenait, ils arrivaient à survivre. Mais ils ne vivaient pas vraiment. Puisque dès qu'ils étaient réduits à eux-mêmes, ils mouraient, ils perdaient contre Amalek. Bon, il a fallu, effectivement, mettre en place les mains de Moshe Rabbeinu. Bon, alors, les kabbalistes diront que la main, c'est Yad. Yad, c'est 14. Et les deux mains, ça fait 28. 28, c'est Koach. C'est toute la force, effectivement, que les Bnei Israël ont mise en œuvre, enfin, que Moshe Rabbeinu a mis en œuvre pour aider les Bnei Israël de gagner. On va pas entrer là-dedans plus longtemps. Il a donc fallu détruire Amalek. Amalek, c'est le séparateur, celui qui il veut enfoncer un coin en quelque sorte. Enfin, qu'est-ce qu'il a, comment il a pu, c'est une question, comment il a pu attaquer les Bnei Israël? Vous vous souvenez, les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés dans une bulle de protection. Ils étaient protégés par en haut, devant, derrière, tout. Comment Amalek peut attaquer? Il a pu attaquer parce qu'il y a des gens qui était un peu faible dans le plan d'Israël, et qui ne voulait pas faire ce que la seule chose que les Bnei Israël avaient à faire à ce moment-là, c'est d'étudier, enfin de se préparer à recevoir la Torah, puis ensuite, dans leur histoire, ils auront eu besoin d'étudier, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas à travailler, il n'y avait rien à faire d'autre que d'étudier. Les gens ne voulaient pas étudier, les gens qui n'avaient pas envie d'étudier, ne voulaient pas. Et donc, ces gens-là, en quelque sorte, ont entrouvert la bulle. Ils ont laissé... Il y avait une faille à cause d'eux, et c'est dans cette faille-là que Amalek s'est engouffré, si on peut parler comme ça. La troisième, Parashat Para, c'est la notion, donc, comme on l'a dit, de purification de la Touma Tmet, de la Touma réside. Résultant d'un contact avec un mort. Vous savez bien que c'est un sujet très difficile. C'est ce fameux sujet qu'on appelle un chok. Un chok, c'est une loi qui est réputée une loi inconnaissable. On ne peut pas vraiment comprendre, bien que ce soit écrit explicitement qu'Hachem l'a enseigné à Moshe Rabbeinu. Mais Shlomo HaMelech, à ce moment-là, il dit, j'ai cru que je maîtrisais la sagesse, je vois qu'elle est encore très loin, c'est Sopara Adouma qui l'a dit cela, c'est-à-dire c'est l'échec de la chokhma seule, il faut autre chose que la chokhma, autre chose que la sagesse. Le problème de la confrontation avec la mort est obligatoire. On ne peut pas faire l'économie, sauf si on laissait les vautours faire le travail. Mais si on veut faire autre chose, c'est-à-dire si on veut enterrer les gens, il faut bien que quelqu'un s'occupe des morts. Il faut bien qu'on entre en contact avec les morts. Si on ne veut pas laisser... Et donc, c'est obligatoire. Donc, on ne peut pas faire cette économie. Donc, il faut savoir comment on en sort. Alors, c'est ça qui est important. C'est que là, on apprend justement que la mort n'est pas la fin des choses. Il y a un processus permettant de sortir, en fait. Alors, nous qui n'avons plus Para Adouma, alors dans Chazal on dit que les efforts dans l'étude de la Torah sont équivalents à Srefat Apara, c'est-à-dire sont équivalents à l'opération de brûler une fois qu'on a fait la Shrita de la Para Adouma, on a brûlé, on a fabriqué des cendres, qui étaient mélangées à l'eau, et c'était cette eau qu'on appelle joliment en français, les eaux lustrales, je crois. Il y avait des aspersions le troisième et le septième jour du processus de purification sur celui qui était impur. Ça montre que, effectivement, la mort, effectivement, c'est un passage. Mais on peut en sortir. On peut sortir, évidemment, du contact avec la mort, on n'est pas condamné à mort de ce point de vue-là. C'est aussi l'idée que la mort, ça fait partie de la vie, si on peut parler comme ça. Donc, entrer en contact d'abord avec les morts, puis ensuite, la mort des gens fait partie de... C'est comme ça, on finit par mourir, et comme on considère que c'est une étape seulement, qu'il y a autre chose après la mort, c'est un enseignement absolument fondamental aussi pour pouvoir construire un peuple qui a la caractéristique d'être un peuple d'après la mort. Parce que d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes après la mort. On est après la mort dite par Nimrod, après la mort dite par Paro. On est après, ça commence plus tôt encore. Yitzhak Avinu, c'est le modèle. Yitzhak Avinu était, certains disent qu'il a une nouvelle neshama, au moment de la Akeda, il a reçu une nouvelle neshama, d'autres disent que c'est pas une nouvelle neshama vraiment. Quelque chose, lui il est après la mort, d'une certaine façon. Il est mort. Chazal disent que quand on a voulu construire le deuxième Beth Amikdash, on ne savait pas où était exactement l'endroit où il fallait construire le Mizbeach, l'autel. Donc ils ont fait des fouilles et ils ont trouvé une urne sur laquelle c'était marqué que c'était les cendres de Yitzhak. Comme vous savez, Yitzhak n'a jamais été brûlé. Mais le bélier que Avraham Avinu a approché en lieu et place d'Avraham Avinu, c'est une Ola. C'est-à-dire, on a fait la Shrita, puis ensuite ça a été brûlé, il y avait des cendres. Et ces cendres sont appelées les cendres de Yitzhak Avinu. Pour montrer que Avraham Avinu, il a à ce moment-là inventé un corban de substitution. Des corbanotes, il y en avait avant, Madame Arishon, etc. Mais ce qu'Avraham Avinu a inventé, c'est un corban de substitution, où on substitue le corps humain, au corps humain, on substitue un corps animal. C'est ce qu'il a fait. Il a substitué à Yitzhak Avinu, le fameux bélier qui était là de toute éternité, pour justement remplacer, pour qu'Abraham ait fait quelque chose, il voulait faire quelque chose, il voulait le faire sur le corps d'Yitzhak, même après qu'on lui ait dit qu'il n'avait pas le droit d'en faire la shrita, il voulait au moins faire une entaille, faire quelque chose, un passage à l'acte en quelque sorte. Hachem lui a dit, tu ne le touches pas, et à ce moment-là, il a vu le fameux bélier qui était pris comme dans les buissons, comme vous savez, et il a fait la shrita, et de ce bélier, il l'a remplacé, c'est avec ce bélier qu'il a fabriqué la Ola. Donc, cette mort, en fait, c'est quelque chose qui est, dans le clan d'Israël, un état dépassé, en quelque sorte. Certains disent que on est un être pour la mort. Celui qui disait ça... Et nous, on ne sommes pas des êtres pour la mort, on est des êtres pour la vie, justement, mais on a la mort derrière soi. D'une certaine manière, c'est comme si on disait, la mort, on connaît, on est déjà la deuxième génération, en quelque sorte. La deuxième génération. La génération d'après la mort, en fait. On est mort, mais voilà. C'est ça le nouveau temps qui nous a été donné. Un nouveau temps, le Gaon explique que la création du monde, c'est d'abord la création du temps. Bon, Shemar, il explique, Baruch, on sait Bereshit, c'est une création du temps d'abord. La question qui se pose, c'est d'où vient cette force de Amalek? Alors, pour le dire très très vite, justement, ça vient de ce que Amalek est appelé Réchit Goïm Amalek. Il est le Réchit, le premier, la tête de tous les autres peuples, Amalek. Et il s'oppose à Israël qui est appelé Réchit. De Réchit Bara, Bishvil Israël, Shinikraim Réchit, pour Israël qui est Réchit. Donc il a une prétention à être Réchit, un Réchit qui s'oppose frontalement au Réchit d'Ebné Israël, à cet être à la tête d'eux. Donc c'est ça, la force lui vient de là, et de ce fait, ça lui vient justement du tout début, en fait. Si c'est un Réchit, ça veut dire, ça vient du commencement. Lui aussi se réclame d'un commencement. Il n'est pas quelqu'un qui viendrait attaquer des gens qui sont là depuis le début. Il dit, moi je suis autant au début que vous. En fait. Je suis aussi un début. Et je conteste que vous ayez un statut à part en tant que Réchit. Moi aussi je suis Réchit. Il y a encore une chose que je voudrais dire, bien qu'il soit déjà très tard. Mais bon, c'est la dernière fois. Pour cette année, bien sûr. Prendre l'avance. En fait, en réalité, on vous parle ici de la notion d'invention, de fondation d'un peuple. Moshe Rabbeinu, s'est en fait refusé à fonder un peuple. Après que les 600 000 et fait le veau d'or, Chazal rapporte sur les psukim de Sefer Shemot, en vérité. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire et je vais faire de toi un grand peuple. Donc Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu de détruire le clan d'Israël. C'est tout, c'est raté. J'ai investi en eux, c'est raté. Mais bon, de même que ça avait raté dans la version Avraham Yitzhak Yaakov a raté d'une certaine manière, j'ai essayé avec eux, ça a raté. De même qu'il y a eu quelqu'un pour commencer un recommencement, c'était Avraham, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je recommence avec toi. Je fais de toi un grand peuple. Et Moshe Rabbeinu a dit, Ribono shel Olam, maître du monde, le peuple que tu as construit avec trois piliers se révèle ne pas être stable. Tu voudrais construire avec un seul pilier? Il n'y a aucune chance que ce soit jamais stable. Pas question. Cher Abinadi, je ne suis pas un nouvel Abraham. Je ne suis pas partant. Si tu ne pardonnes pas au clan d'Israël, tu peux m'effacer de ton livre. On arrête tout, mais ça ne continue pas avec moi. Comme vous savez, c'est Hachem qui est cédé. Mais s'il avait accepté de fonder ce peuple à nouveau, ça aurait été, si vous voulez, d'une certaine manière, nier la valeur de ce trépied qu'étaient les trois avotes, c'est aussi annuler complètement l'ancienneté du clan d'Israël. Je vous ai dit que, d'une certaine manière, c'est un nouveau peuple, mais qui se rattache aux avotes. Bien que les avotes aient peu de choses en commun avec nous. Puisque eux, ils ont jamais reçu la Torah. Elle était en eux. Une fois. Ce n'est pas du tout le même processus. Avraham Avinu, il n'a pas du tout dû travailler pour étudier la Torah. C'était ce que son corps lui disait de faire. Il n'y a pas de Amal, il n'y avait pas tout ce travail. Et ça a recommencé. Dans les premières Louchot, si on avait gardé les premières Louchot, on n'aurait pas eu besoin de travailler autant. Bon, tout ça, tout ce travail-là n'aurait pas été nécessaire. Tout était déjà donné dans les premières Luchot. Évidemment, ça n'a pas marché. On a reçu les deuxièmes Luchot dans lesquels il faut bosser. Et ce travail, justement, qui est ce Amal, d'accord, c'est quelque chose de bon. Si ça ne vient pas de nous-mêmes naturellement, en quelque sorte, mais il va falloir travailler pour que ça vienne. On va vous souffler, on va vous dire ce qu'il faut faire, de façon que, on va donner Torah chez Birtav, la Torah écrite, on vous la donne telle qu'elle, sans effort, mais tout le reste c'est lié à l'effort, c'est un effort gigantesque. Il ne faut pas oublier tout ce qui est, bon, c'est pas grand chose ici, mais il y a beaucoup plus que ça. Ça a été fabriqué sous les croisades, ça a été fabriqué sous la domination romaine, ça a été fabriqué dans certains, sous les pogroms. Bon, c'est fabriqué à l'époque de la Trapule, à laquelle ils ont donné le nom de l'hôpital en face, bon, qui est celui qui a brûlé le Talmud, hein, celui qui a brûlé 25 ou je ne sais pas combien de charrettes de Talmud en place de grève. C'est lui, là. C'est ça. On a donc cette préparation, en quelque sorte. Avec quelque chose qui est de l'ordre de la, presque d'une préparation préhistorique, on se prépare, non pas encore, à Chodesh HaZelachem, c'est pas encore Pessah. Il y a encore 15 jours d'ici là. Il manque encore le Korban Pessah, qui a été fait seulement après. Donc on n'est pas vraiment libéré. Comme je vous ai dit, à Chodesh HaZelachem, c'est dit à des gens qui sont encore esclaves. Mais on leur donne la maîtrise du temps, c'est-à-dire on leur dit, ben voilà, vous allez maîtriser le temps. Maîtriser le temps, ça veut dire vous sortez de l'esclavage. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le temps. Vous allez maîtriser le temps. Sortez par là de l'esclavage. Il faut encore l'accord de Paro, comme je vous ai dit. Et ça, ils vont l'obtenir. Et puis, ça va commencer. Voilà. Il y a une naissance, mais on n'est même pas sûr que ça va... C'est pas sûr si les Israélites n'avaient pas fait le Korban Pessah. C'était compliqué parce que pour pouvoir faire le Korban Pessah, il fallait avoir fait la Mila. Or, ils n'ont pas fait la Mila en Égypte. Donc, Moshe Rabbeinu a dû faire la Mila à tout le monde juste avant de sortir d'Égypte. Ils avaient arrêté de faire la Mila. Yosef avait imposé même aux Égyptiens de faire la Mila. Et après, même les Bnei Israël l'ont arrêté de faire la Mila. Donc, il a fallu faire ça en catastrophe, en quelque sorte. Et c'est ce qui a été fait. C'est comme ça que les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim. Ils sont sortis de Mitzrayim alors que probablement personne ne savait que ça voulait dire de sortir d'Égypte. Ça voulait strictement rien dire pour personne. C'est des mots parce que personne n'est jamais sorti d'Égypte. Il y a eu un moment donné, et ça c'est probablement ce qu'on appelle les Tzahara, il y a eu un moment donné une volonté de la tribu d'Ephraïm de sortir d'Égypte. Ils sont sortis, mais ils ont été massacrés dans le désert. C'était une des raisons pour lesquelles les quelques-uns qui voulaient sortir d'Égypte après disaient qu'ils n'étaient pas tellement chauds parce que on savait ce qui était arrivé à la tribu d'Ephraïm. Voilà, on va s'arrêter là.